Daniel Marie Sainte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller exécutif à la CTM en charge des infrastructures et vous avez aussi le dossier du numérique.
Oui, précisément le développement du numérique sur tout le territoire de la Martinique.
Alors, nous avons tout notre temps pour faire ce que j'appelle un complément d'information. Pour vous expliquer pourquoi nous essayons de faire ce genre d'opération, c'est tout simplement parce que je considère qu'on ne peut pas informer ni même se faire une opinion en 1 minute 30. Alors, nous avons pris un certain nombre de rendez-vous que nous essayons d'avoir avec des responsables de collectivités et vous avez eu l'aimabilité de nous recevoir aujourd'hui pour que nous puissions rentrer dans le détail de cette affaire du numérique. Je vous propose qu'on commence par un historique puisque dès le départ, vous avez été en charge de ce dossier qui, me semble-t-il, avait commencé sous la présidence d'Alfred Marie-Jeanne, me semble-t-il.
Oui, c'est exact. Et même à l'époque, on ne parlait pas encore du numérique. On parlait de la société de l'information. L'Internet, disons le réseau international, venait juste de faire son entrée dans le domaine public. Parce que pendant longtemps, c'était, il faut reconnaître les choses, hein, les Américains avec leur réseau de satellites et disons, l'armée US qui utilisait ces réseaux pour correspondre, parce que c'est une armée impérialiste qui était un peu implantée dans le monde entier. Donc le chef des armées, qui est le président des États-Unis, avait besoin d'être en contact permanent avec ses troupes partout dans le monde. Bien, lorsque, on est revenu, la guerre froide étant terminée, ce réseau a été mis à la disposition du public. C'est devenu donc un réseau international qui a pris par la suite le nom de Internet. Au début, je disais qu'on disait la société de l'information. Un point d'histoire important, parce qu'il faut reconnaître les gens qui sont ouverts à cela. Le président de la Chambre de commerce et de l'industrie était Jean-Claude Lube, pharmacien de son état, mais très ouvert sur ces questions-là. Moi, j'étais déjà élu régional, passionné de par ma formation elle-même, parce que je suis ingénieur dans ces domaines-là, nous avons échangé et nous sommes arrivés à une analyse commune que la société de l'information, l'Internet, on disait également l'autoroute de l'information. Je dois citer également un autre conseiller régional qui était déjà là à l'époque, c'est Miguel Laventure. Il n'a pas de formation technique, mais il a vu très tôt que cette affaire pouvait être une chance pour nous. On utilisait donc un concept qui s'appelle l'autoroute de l'information. Vous voyez d'où ça part. Qu'est-ce que nous avons fait comme analyse commune? Que notre pays a un territoire exigu. Il est éloigné. Les Européens nous traitent même d'ultra-périphérique. Mais grâce à ce qu'on appelait l'autoroute de l'information, nous pouvons avoir accès dans le même temps, à la même vitesse, accès aux sources d'information, quel que soit là où elle se trouve dans le monde. Nous avons accès aussi vite que l'Américain, que l'Européen, etc. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. L'information devenait donc une denrée importante. Et celui qui possède cette information a une source de richesse, une potentialité. Mais il fallait rendre la Martinique accessible à cette information. À l'époque, du point de vue de télécommunication, la Martinique n'était reliée que par un câble, un vieux câble, de cuivre qui nous reliait d'un côté aux États-Unis, de l'autre à l'Europe, disons à la France, et qui servait au téléphone. On envoyait des messages en morse. Vous voyez, on parle là. Dans cette période, nous sommes à la fin des années 90. France Télécom, comme on disait à l'époque, était entré dans un consortium et avait tiré un câble qu'on appelle Americas 2, Americas 2. Donc, France Télécom, à l'époque, avait le monopole de la liaison à l'international entre la Martinique et le reste du monde. Par un câble en cuivre très ancien, sous-marin, et un nouveau câble à fibre optique. Les prix pour accéder au territoire de Martinique ou pour sortir étaient donc très chers face à un monopole. D'autant plus qu'il y a eu une privatisation de France Télécom qui par la suite est devenue Orange. Deuxièmement, les débits étaient très faibles. Et ceux qui avaient du débit un petit peu plus élevé le payaient fortement. Nous avons fait ce constat. Nous avons créé un comité de pilotage de la société de l'information qui comprenait à l'époque la Chambre de commerce, le Conseil régional, également le Conseil général y était représenté, et la ville de Fort-de-France, pour plus tard la CACEM. Et nous sommes allés en visite dans un certain nombre de pays, en Angleterre, en Irlande, en Costa Rica, et nous avons vu ce qui pouvait être fait. Hier, je vais citer un autre nom, quelqu'un qui était venu avec nous, la Société de l'information, qui est malheureusement qui est décédé depuis, c'était Roger Charles-Nicolas. Il était à l'époque porteur d'un projet qui est devenu par la suite Martinique TV Câble. Et il faisait ça en partenariat avec une société canadienne qui était venue pour dérouler du câble, mais du câble en aérien. Et qui recevait des images par satellite et qui le répercutait chez leurs abonnés par du câble aérien en fibre optique au fur et à mesure que les maires des communes sollicitées donnaient leur accord pour que ce réseau de câbles aériens en fibre optique soit développé chez eux. Voilà donc les personnes qui étaient autour de la table au comité de pilotage, et nous avons vu que c'est nécessaire pour nous, et ça peut même être la source de création d'emplois. Bien, nous avons vu des choses impressionnantes en Irlande et en Costa Rica. Donc nous avons dit qu'il faut le faire pour la Martinique.
Le Costa Rica, pourquoi le Costa Rica? Qu'est-ce qui vous avait poussé à aller par là? C'était quoi l'info?
Alors parce que la société qui portait le projet pour créer la télévision par câble avait déjà développé à la Costa Rica une société qui, de mémoire, s'appelle Cable Color. Okay. Voilà. Donc nous étions allés voir qu'est-ce que ça pouvait rendre, parce que jusqu'à présent, nous n'avions comme télévision que par l'antenne HF, l'antenne râteau. À partir d'antenne, c'était Télévision de France qui diffusait ça. La qualité n'était pas terrible, mais c'était toujours très sensible aux conditions atmosphériques. Tandis que, par câble, par fibre optique, on a de très belles images, etc. Bon. Et puis, c'était une concurrence avec le canal satellite, qui entre-temps s'est installé sur le territoire. Lequel, d'ailleurs, antenne satellite, est très sensible au mauvais temps, disons. Bon, allez, vite. Il suffit qu'un nuage passe devant l'antenne et on ne voit plus rien. Bien. Alors, ceci étant dit, nous avons réuni ces informations et nous nous sommes posé la question, qui, en Martinique, pouvait porter cela? Nous avons d'abord constaté que le secteur privé ne faisait pas grand-chose.
Oui, mais à l'époque, il n'y croyait pas non plus.
Oui, donc il y avait Orange, de France Télécom plutôt, qui développait, mais ils étaient animés par une raison commerciale. Ils commençaient à développer les réseaux sous forme de ADSL, c'est-à-dire c'est une technique qui permet, à partir des câbles cuivre du téléphone,
d'augmenter le débit.
Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais c'était de l'ADSL. Ce n'était pas tellement terrible non plus. Et nous avons appris que dans d'autres pays ailleurs, et en particulier en Irlande, ils étaient déjà arrivés au haut débit. Donc, faisons le constat qu'il y avait une fracture numérique touchant l'intégralité de notre pays, mais à l'intérieur de notre pays, entre, disons, la conurbation royalaise et le reste du pays, nous avons convenu au sein du comité de pilotage que ça devait être la région qui allait porter cette affaire.
D'accord. Qui était président à l'époque par qui?
Alfred Marguerite.
D'accord, c'est bien d'accord.
Oui. Puisque nous sommes à la fin des années 90, Alfred Marguerite devient pour la première fois président de la région en 1998, prenant la suite de feu Émile Capgras. Mais on avait déjà commencé le comité de pilotage sur l'information sous Capgras. Donc, nous rapportons ça aux élus et cette idée va faire consensus. Ça va nous permettre d'élaborer un projet et interpeller l'État. Et à l'époque, il y avait une autorité qui s'appelait, je crois, l'ART, l'Autorité de Régulation pour la Télécommunication. Il y avait aussi le CSA. Je ne me rappelle plus d'ailleurs ce que ça signifie. On va retrouver le sigle.
Mais c'est audiovisuel, forcément, dedans.
Voilà.
C'est supérieur de l'audiovisuel.
L'ART est venue par la suite, l'ARCEP, actuellement. Bref, il fallait donc avoir l'autorisation de toutes ces autorités. Et qui ont admis que, du fait de la lacune du secteur privé, une collectivité publique pouvait être porteur du projet. Nous avons entamé la question sur deux directions. La première, c'était de faciliter l'accès au territoire. Nous avons entendu dire que la Madame Michaud Chevry, qui était alors présidente du Conseil régional de Guadeloupe, elle-même avait fait un peu parallèlement la même réflexion et avait constaté que la Guadeloupe n'était pas raccordée au réseau international par un câble sous-marin de fibre optique, donc était elle-même aussi porteur d'un projet. Donc il y a eu une conjonction entre la région Martinique et la région Guadeloupe, puisque le président Marie-Jeanne se rencontrait Michaud Chevry, de même qu'il rencontrait Antoine Caram de la Guyane, il avait même fait une association des régions Caraïbes sous domination.
Nous sommes là dans une période 74, c'est ça, 73-74.
Voilà, c'est un petit peu ça, dans la période de la déclaration de Basse-Terre.
Oui, c'est ça.
Précisément, la déclaration de Basse-Terre a été signée le 1er décembre 1999. Vous voyez, dans cette ambiance-là, donc il y a une coopération qui s'établit, et Mme Michaud Chevry avait préparé, comme nous, un dossier de délégation de services publics pour chercher un candidat pour poser un câble sous-marin nous reliant au monde entier. Donc, l'accord s'est fait pour un câble qui, venant, disons, de l'ouest, vers la Guadeloupe, c'est-à-dire Porto Rico, Antigua, à Guadeloupe. Ensuite, la Martinique le finance de la Guadeloupe via la Dominique jusqu'à Fort-de-France. Donc, nous avons lancé, nous aussi...
C'est pas à cette époque qu'il y avait une demande aussi pour connecter Sainte-Lucie, me semble-t-il.
Aussi, il y avait des accords. Il y avait d'accord, même on souhaitait que le câble aille jusqu'en Guyane. Mais en tout cas, au sein de l'OSIS, il y avait un pourparler là-dessus. Mais ce dont moi j'étais chargé, c'est d'aller chercher le câble en Guadeloupe, avec un passage en Dominique, mais arriver jusqu'à Fort-de-France. C'était ce dont moi j'étais chargé. Donc nous avons élaboré un projet de délégation de service public, nous avons fait un appel à candidature, et nous avons retenu une entreprise qui a été chargé de poser le câble.
D'accord, de poser ce câble pour le faire arriver ici à Fort-de-France.
Et il a atterri, il est sous-marin, il a atterri à Fort-de-France au doigt de la piste aéroportuaire, et puis ensuite il remonte et il a abouti à un local qui existe toujours, qui se trouve au Larenti. Disons, pour aller vite, je peux le dire sur votre radio, oui. Derrière le garage BM, il y a un local là. Il y a une entreprise qui a été créée qui s'appelle Middle Caribbean Network. En fait, c'était le réseau du milieu de la Caraïbe, Middle Caribbean Network. Donc, qui commercialise le câble et que nous avons subventionné. Deuxième direction dans laquelle on a travaillé, c'est que ce câble sous-marin arrive là, mais ensuite il fallait qu'il soit développé sur toute la Martinique. Donc nous avons lancé un deuxième appel de candidature, pour développer une autre DSP, une délégation de services publics. C'est pour le déploiement d'un réseau à haut débit sur tout le territoire. Évidemment, nous avons déployé de la fibre optique sur tout le territoire. Et dans les parties montagneuses de la Martinique.
On était déjà en fibre optique ?
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on est allé jusque ce qu'on appelait les NRA, juste au nœud de réseau d'abonnés. Bon, pour parler simplement, vous voyez ces armoires qui sont sur le bord de la route, à partir desquelles France Télécom vous raccordait au téléphone. Eh bien, la fibre optique, le câble souterrain que nous avons posé, arrive. Il y a 34 NRA sur le territoire. Et à partir de là, les derniers kilomètres pour arriver au domicile de chacun, on utilisait les câbles cuivre existants.
D'accord. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, me semble-t-il, mes souvenirs sont exacts, c'est que vous lancez cet appel d'offres, mais ce n'est pas vous au départ qui le commencez. On est déjà pratiquement sous l'ère Lecchimi, là.
Non. Quand les Chibis arrivent, nous sommes à 92%.
D'accord.
92% du territoire est déjà réalisé. Et le réseau n'est pas encore commercialisé. Donc ça veut dire que les clients ne bénéficient pas encore
du service.
Mais vous avez...
Les câbles sont passés.
Les câbles sont passés et on peut voir sur tous les réseaux routiers des engins avec une grande scie
qui
coupe la Martinique. Voilà, donc on voit encore les traces. Les fourreaux sont posés, etc. Et on va jusqu'au NRA. Nous étions seulement, en tout cas, lorsqu'arrive 2010, nous avions déjà raccordé 32 NRA, les deux réseaux abonnés, disons les armoires de
D'accord. De et France ça, Télécom. C'est une entreprise guadeloupéenne qui s'en occupe, je crois.
Oui, c'est un consortium dans lequel il y a le groupe Lorette.
D'accord. C'est important qu'on en parle, hein,
oui,
à ce niveau, voilà. Parce que il faut préciser aussi que par la suite, on peut même dire que ça va constituer un nœud, quoi.
Je ne sais pas. En tout cas, ce groupe, il va d'ailleurs le faire avec, en s'appuyant sur des groupes internationaux, des groupes français qui apportent la technique. Lui, il apporte le financement, et nous allons demander que une société spécifique soit créée pour la réalisation du réseau et ensuite sa gestion. Et cette société va s'appeler Martinique Numérique. C'est moi qui choisis le nom.
D'accord.
Martinique Numérique et le réseau.
C'est quoi ? C'est une société. Vous dites bien une société. C'est-à-dire en fait, c'est une société privée.
Oui, privé, dans lequel il y a des actionnaires.
Et on retrouve qui dans cette société, Daniel ?
Alors, de mémoire, il y a le groupe Lorette, il y avait le groupe Outre-mer Télécom, et puis il y avait un référent technique, le nom m'échappe, je crois Sogetrel, je crois, de mémoire.
Hein. Et France Télécom n'est pas dans ce groupe ?
Non, d'ailleurs, curieusement, lorsque nous faisons l'appel d'offres, France Télécom ne va pas répondre. Alors nous attendions à ce qu'ils répondent, parce qu'ils s'occupaient déjà de la partie de la conurbation de Fort-de-France. France Télécom, alors qu'il a retiré des dossiers, ne va pas déposer d'offres. Donc c'est cette société-là, j'ai eu de mémoire 4 candidats, et le jury qui gère les DSP va retenir donc ce groupe qui va créer une société spécifique qu'on le baptise Martinique Numérique et qui existe toujours. Par la suite, alors vous faites allusion à ça, par la suite ce groupe va avoir quelques problèmes financiers. Et puis, elle va être rachetée. Et c'est actuellement, c'est le groupe Canal+, sous le nom de Canal Oversea, qui a racheté cette société.
D'accord.
Je ne sais pas s'il a racheté Lorette, mais en tout cas, la partie télécommunication a été rachetée. Et c'est actuellement, c'est avec cette société que nous traitons, puisque nous sommes toujours
l'ex-AIS, me semble-t-il, Anti-Internet Service,
possible.
Qui à l'époque avait été soutenu par CGTEL, et Oleg Bakovitch et toute l'équipe.
Si vous le dites, vous êtes exact. Mais en tout cas, quand je reviens aux responsabilités en 2016, je n'ai plus affaire au même actionnaire principal. J'ai désormais affaire à Canal Overseas, c'est-à-dire le groupe Canal+. Et qui continue. Alors, entre-temps, le réseau a été baptisé réseau Liane. Réseau Liane. Moi, je l'appelais le réseau de haut débit de Martinique. Bon, il était baptisé, on lui a donné un nom commercial, réseau Liane. C'est le réseau de haut débit qui couvre toute la Martinique. Et je disais que sur le nord, la partie dans les pitons, là, en allant vers Grandier, etc., ce n'est pas des câbles, mais nous utilisons le réseau hertzien, parce qu'il y a des antennes, et bon, on ne pouvait pas défoncer toutes les routes partout. Ça, c'est donc un premier aspect, ça a permis de couvrir toute la Martinique. Alors je disais que lorsqu'en 2010, il y a un changement de majorité au conseil régional, l'équipe qui arrive... Moi, je suis à ce moment chef de l'opposition, donc j'ai quand même une information sur ce qui se passe, va poursuivre et va terminer le boulot.
D'accord.
Bien.
Alors, il me semble même que le dossier vous avait été confié.
Non, j'ai continué à le suivre, puisque je suis resté... Non,
pas et
m'a été confié, mais en tout cas, le président, il faut reconnaître, de l'époque, avait toujours reconnu ma technicité dans ce domaine.
C'est pour ça que je parle de confier.
Voilà, donc il sait que techniquement, je m'y connais, et je suis passionné de cela. Non, c'est le collègue... non, je suis là pour la vérité, hein, c'est le collègue Jean Cuisol... Hein, qui suivait ça au jour le jour. Mais il est de formation économiste, donc il pouvait traiter les affaires. Mais de formation technique, il s'est appuyé, et ils ont eu quand même l'intelligence de garder le même ingénieur, qui avait été recruté par Alfred Marie-Jeanne, et qui est toujours avec nous.
Qui est qui ?
Ben, c'est Miguel Mondésir.
D'accord.
Hein, et qui continue à suivre, je l'ai retrouvé, c'était mon collaborateur avant 2010, et il est encore mon collaborateur après 2016. Donc, il a pu assurer la continuité des services, et nous avons pu faire respecter la délégation de services publics qui prévoyait qu'à chaque fois qu'il y avait une évolution de la technique, une évolution des innovations technologiques, le délégataire s'assurerait de le faire.
D'accord. Alors, pour revenir sur la question des nœuds, Daniel Marissa, de ces boîtes qui sont reliées par fibre optique, il y en a combien en réalité en Martinique ? Vous m'avez parlé de 32, c'est ça ? Vous avez le chiffre ou pas aujourd'hui, à peu près, grosso modo ?
32, c'était ce qui était raccordé à 2010.
D'accord, très bien.
Bon, mais actuellement, tout a été raccordé.
D'accord.
De mémoire, en tout cas, c'est moins d'une quarantaine.
Très bien.
Bien. Mais tout a été raccordé. C'est-à-dire que, à part 0,1%, tous les Martiniquais peuvent avoir accès au haut débit.
D'accord. Alors, bien. Il faut noter quand même, alors vous allez me dire si je me trompe dans la compréhension que nous avons, c'est que la fibre optique arrive dans ces boîtes, mais on repart après en filaire. C'est-à-dire qu'on repart en cuivre.
En cuivre. C'est-à-dire pas en oui, l'information, les données, les VDI, comme on disait, voix, données, images, circulent sur les derniers kilomètres par le fil téléphonique existant.
Bon, alors, ça nous donne quoi comme débit finalement avec ce
comme on est assez près, on peut monter jusqu'à 20 mégas, mais on ne va pas au-delà.
Bien.
Bien, on va pas au-delà. Quand on est à plus de 7 km, là, on chute en dessous de mégas. Et c'est là qu'on a les gens mécontents. Bien. Mais, alors, je veux quand même expliquer quelque chose. C'est que, parce que c'est un principe qui est voulu par l'Europe et par l'État, puisque c'est financé avec des fonds publics, il y a une société qui commercialise le réseau et qui, ce réseau est libre d'accès pour tous les FAI. Les FAI, c'est les fournisseurs d'accès, ceux à qui chaque client s'adresse. Ils n'ont pas la peine de citer leur nom, ils sont tous connus maintenant.
Non, mais on peut éventuellement...
D'accord, bon, en fait, il y a Orange, il y a Digicel, il y a...
Free,
Mediaserve, etc. Même Canal+, qui s'est mis aussi là-dedans. Quand il veut desservir un client, il met en compétition les réseaux qui existent, celui de France Télécom ou celui de Martinique, le réseau Liane, qui sont en compétition, qui leur fait des offres, aussi bien des offres pour la desserte des territoires, mais des offres également pour sortir international, puisque nous avons maintenant deux câbles. Il y a le câble Middle Caribbean, le MCN, et le câble Americas 2. Donc, nous avons pu faire introduire une concurrence. Elle n'est pas forte, parce que c'est une concurrence à deux, évidemment, ce n'est pas une vraie concurrence, mais en fait, c'est mieux que lorsqu'il y a un monopole. Bon, ça, c'était l'état dans lequel on s'est trouvé en 2016.
Bien.
D'accord. À partir de 2016, nous avons repris un autre projet, et qui part sur trois axes. Nous avons d'abord lancé un appel d'offres pour la montée en débit. C'est quoi l'appel d'offres ou la montée en débit? C'est développer de la fibre optique entre les nœuds de réseau d'abonnés...
Et les différentes maisons. D'accord.
Alors, nous n'avons pas commencé par les maisons. Dans le premier appel d'offres que nous avons lancé dès le premier trimestre 2016, et qui est en cours, qui se développe, nous avons désigné un certain nombre de... disons, d'abonnés stratégiques. Ce sont nos lycées, nos collèges, les hôpitaux, les centres de recherche, l'université, c'est-à-dire certaines...
Les zones industrielles aussi, peut-être.
Oui, les zones d'activité économique. C'est-à-dire mettre le haut débit à la disposition. Donc c'est ce qu'on appelle la montée en débit. Alors ça consiste à se substituer les câbles cuivre par la fibre optique, qui arrive au pied dans chaque lycée, etc.
Des immeubles, des entreprises,
voilà.
Et tout
donc,
ça.
La limitation que nous donnait le cuivre disparaît au fur et à mesure. Et nous sommes en train de le faire dans une série de lieux stratégiques que nous avons déterminés.
D'accord.
Et nous passons des commandes, donc ça fonctionne.
Et au bout de ces fibres, on arrive à combien de débits?
Alors, c'est limité à ce moment-là.
D'accord.
Ça peut être illimité. Ça peut être, parce que dans la fibre optique, c'est illimité. Il n'y a pas de perte en ligne.
D'accord.
C'est-à-dire que vous mettez... Alors, ce n'est plus du courant électrique qui circule, c'est de la lumière. Donc ça circule à la vitesse où la lumière se déplace dans la fibre. Puisque le débit, en fait, c'est une quantité de lumière par unité de surface, quoi. Bon. Et par linéaire. Donc cette montée en débit va faire que chacun pourra avoir sur son écran d'ordinateur les images qui arrivent à la même vitesse que la télévision, etc. Ça, c'est une chose. Et donc, on travaille là-dessus, sur les sites stratégiques. Ça, c'était la première piste, et qui est en cours pour les lieux stratégiques, c'est pas encore pour tout le monde. Le deuxième dossier que nous avons lancé, c'est le dossier du déploiement de la fibre optique. C'est sur tout le territoire, donc les spécialistes appellent ça le FTTH, c'est-à-dire la fibre jusqu'à la maison, ou le FTTO, la fibre jusqu'au bureau. Mais nous avons lancé un marché conception et réalisation sous forme de concours. Ça a été très, très, très long. Nous avions là aussi 5 candidats. Et 3 sont arrivés jusqu'au bout due de la consultation, qui a pris beaucoup de temps, plus de 6 mois, et à la fin, nous avons attribué à un groupement constitué de Orange et de Constructel. Ce marché a été signé. Et ce marché est important parce qu'il représente plus de 140 millions d'investissements.
D'accord. Sur combien d'années ?
Sur 5 ans. Nous avons déjà commencé une année, donc il reste 4 ans. C'est un marché conception et réalisation.
C'est un marché... Constructel, c'est cette société qui regroupe l'ensemble des câbles opérateurs martiniquais.
Non, hélas, c'est pas eux. Au contraire, je me suis fait critiquer. C'est une entreprise d'origine portugaise, dont le siège social est au Portugal, à Lisbonne, qui a une antenne en France, en Rhône-Alpes, et qui a créé une filiale ici. C'est eux que France Télécom est allé chercher pour faire le groupement. Donc c'est eux qui vont réaliser la technique, la partie hard, et France Télécom feront la partie gestion, conception et gestion. Et nous sommes en phase préparatoire là, puisque le marché est signé déjà depuis quelques mois, et nous passons des commandes par zone, puisque ça va se développer sur 32 communes. Okay. Je vous rappelle que Fort-de-France et Schœlcher ont bénéficié d'une convention avec Orange. Orange a choisi
ces zones-là, oui.
Voilà. Ils l'ont eu, ils ont signé une convention en présence du président de la CTM et le maire de chacune de ces communes, et ils ont déjà commencé à déployer la fibre optique. Donc nous nous occupons des 32 autres communes.
Très bien.
Donc nous signons des bons de commande par groupe de communes, et à terme, toutes les communes vont bénéficier, toutes les maisons vont bénéficier. Figurez-vous que nous devons faire 120 000 prises. C'est-à-dire qu'il y a 100, nous avons identifié 120 000 immeubles où nous allons porter cela. Quand c'est des immeubles collectifs, le réseau arrive en pied d'immeuble. Quand c'est une maison individuelle, le réseau, ça arrive en limite de propriété.
Oui. Alors, Daniel Marie Sainte, rappelons-nous qu'il nous reste un troisième élément, parce que ça fait les deux pieds. Je fais juste une parenthèse, parce que je sais que vous êtes très sensible à ce genre de choses, et moi également, je suis sensible à cela. Ces prises seront développées par donc France Télécom et Constructel, et les entreprises qui font à la Martinique du réseau, est-ce qu'elles ont quand même accès à quelque chose dans ça? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez, vous, eu la possibilité de discuter de cette affaire? Puisque, bon, je sais que fondamentalement, enfin, on pourra pas vous accuser de ne pas vouloir que les entreprises martiniquaises y trouvent du leur. Parce que ce dont on parle, comme vous dites, c'est des millions d'euros. Et ça constitue aussi du travail, quoi. Donc, est-ce que les opérateurs qui sont ici vont trouver du leur?
Bien. Alors,
et on n'oublie pas le troisième pilier.
Hein. Absolument, j'ai tout en tête. D'abord, moi, j'ai constaté qu'un certain nombre d'entre eux se sont groupés pour présenter une offre. Bon, malheureusement, les critères étaient tels que nous n'avons pas pu retenir l'offre. Il y avait une offre qui était constituée par des entreprises. Je préfère dire entreprise plutôt qu'opérateur. Je vais réserver le mot opérateur, le concept, pour un autre type d'entreprise, mais qui intervient toujours dans le haut débit. Un groupe d'entreprises du BTP, s'appuyant sur des industriels de référence de la télécom, ont fait un groupement. Ils n'ont malheureusement pas eu l'affaire. Maintenant, je sais que Constructel et France Télécom auront des sous-traitants. Mais ma sensibilité fait que c'est surtout les travailleurs qui vont, les ouvriers qui vont y travailler, qui m'intéressent aussi. Et nous avons mis des clauses dans le cahier des charges, et dans le règlement de la consultation, pour que ceux qui vont travailler bénéficient de toutes les règles sociales et fiscales s'appliquant à la Martinique. En particulier la convention collective du BTP de la Martinique. Non pas les salaires du Portugal, mais ceux de la Martinique. J'ai trouvé des textes dans le nouveau décret qui régisse la commande publique, qui me permet d'imposer cela, et nous l'avons fait clairement savoir à Orange et à Constructel. De même que...
Vous avez les moyens de vérifier ça, Daniel Marie?
Oui, absolument. Absolument. Et je suis vigilant là-dessus. Et les premiers contrôleurs, ça va être les salariés eux-mêmes, les délégués syndicaux avec lesquels je suis en contact, et qui me renseignent pour toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Et nous sommes à cheval là-dessus. Nous écrivons tous les 6 mois à toutes les entreprises qui nous écrivent ou qui nous fournissent des attestations de régularité sociale et fiscale. Tous les 6 mois. Oui. Ça s'appelle des attestations de vigilance. La loi me le permet, donc je suis à cheval
sur
ça.
Oui, mais enfin, bon,
je suis à cheval sur ça.
Oui, mais c'est pas nouveau, ça.
Je suis un syndicaliste. Je n'oublie pas ça. Et nous avons pris pendant la campagne électorale des engagements vis-à-vis des travailleurs du BTP en particulier. Donc je disais que parallèlement à ça, je suis responsable du secteur formation professionnelle ici. Nous avons lancé des programmes de formation professionnelle. Nous avons déjà formé des Martiniquais en les envoyant se former outre-Atlantique, c'est-à-dire en France, dans une école que nous avons repérée à Fontainebleau. Il y a déjà 2 promotions qui sont parties et qui sont revenues.
Sur cette question de la fibre
optique. Sur la question de la fibre optique et du haut débit en particulier. Puisque une fois que ça sera construit, il va falloir assurer la maintenance de tout ça. Donc nous avons besoin des gens sur le territoire. Et dans le programme de formation professionnelle élaboré par la CTM, nous avons veillé à ce qu'il y ait des formations liées au numérique.
D'accord. Alors,
Donc, voilà, pour répondre à votre question, comment j'essaie de faire contribuer les acteurs économiques sur la Martinique
locaux,
là-dessus.
Oui.
Maintenant, vraisemblablement, comme ils le font l'habitude, aussi bien Orange, France Télécom faisait avant lui, et Constructel vont s'adresser à des entreprises comme sous-traitants. Donc c'est à ces entreprises de se battre pour avoir leur part. Bien, puisqu'ils n'ont pas pu avoir la délégation de services publics que nous avions lancée.
Alors, jusqu'à maintenant, nous sommes sur de la construction de réseau. Nous sommes bien d'accord.
Très bien.
D'accord.
Une fois le réseau terminé, ce réseau, ce n'est pas celui qui l'a construit qui va le commercialiser. Dans le modèle économique que nous avons choisi, ce réseau est notre propriété, la propriété de la CTM. Ce n'est pas la CTM qui va le gérer, qui va le commercialiser, ce n'est pas dans son domaine de compétences. Nous avons lancé un appel à candidature pour avoir un gestionnaire de ce réseau, dans le cadre d'une délégation de services publics, avec des règles très strictes, où il aura à commercialiser ce réseau à égalité à tous les fournisseurs d'accès.
Très bien.
Bien.
Ils ont une espèce de celui qui fait la découpe en gros, quoi.
Nous avons mis le réseau, ils le commercialisent. C'est un peu un fermier comme pour l'eau. C'est-à-dire ceux qui sont les responsables de construire les réseaux d'eau et ensuite ils donnent à un fermier à vendre l'eau pour chaque particulier. Mais là, on va commercialiser le réseau, non pas pour chacun des particuliers, mais pour les opérateurs. C'est pourquoi j'utilise le mot là, opérateur. L'opérateur, c'est celui qui fournit les accès au client final. Donc, après un périple de 8 mois, quand nous avons lancé cet appel à candidature, nous nous sommes évidemment fait assister par un AMO, très solide là-dessus, très expert, qui est basé à Paris. Et finalement, après beaucoup de négociations avec les différents candidats, nous avons retenu SFR. C'est lui qui nous faisait l'offre la plus intéressante. Alors, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs candidats. Dans le dernier round final, il ne restait plus que 2.
Mm-hmm. C'était qui les 2?
Alors, il y avait Orange qui était dans l'un des groupes.
D'accord.
Mais en fait, c'était un consortium. Mm-hmm. Et puis, il y avait un autre consortium mené par
avec Free.
SFR. Non, je n'ai pas vu le...
SFR.
D'accord. SFR.
Mais ils sont implantés ici, SFR.
Oui, c'est eux qui ont racheté.
Par l'intermédiaire de Télécap.
Voilà, c'est eux qui ont racheté Télécap. C'est eux qui ont constaté, M. Drahi, hein, qui est un multimillionnaire. Bref, mais en tout cas, nous n'avons pas eu affaire à lui directement. C'est ses représentants et j'ai mené cette négociation avec la commission de délégation de services publics, que je rappelle qui est formée à la proportionnelle, lequel il y a le groupe de la majorité et le groupe de l'opposition de la CTM.
D'accord.
Je présidais cette réunion.
Oui, juste un point technique, mais Martinique TV Cable vendait déjà de l'Internet à haut débit, me semble-t-il.
Oui.
Par d'autres moyens, par son câble.
Par son câble, oui, en tout cas en dehors de nous. Hein, la CTM n'a rien à y voir.
D'accord.
Puisqu'ils ont construit leur réseau et ils commercialisent leur réseau.
D'accord.
Bien. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi nous avons choisi SFR ? Je dois quand même expliquer au public. C'est que c'est un contrat de délégation de service public pour 25 ans. Nous supposons que pendant 25 ans, la technologie va se moderniser. Il y a un engagement. Il y a un engagement de la part de l'opérateur de moderniser, d'entretenir le réseau, pour qu'il soit au top à chaque instant. Et nous avons un engagement. Et alors, pour l'aider à moderniser, il va nous solliciter des financements. D'accord. Il va mettre son propre apport, il va solliciter des subventions, mais il aura une redevance à payer à la CTM, parce que le réseau reste la propriété de la CTM. Donc il va payer une redevance. Mais le candidat que nous avons retenu, c'est non seulement pour sa valeur technique, mais les deux ont à peu près de même valeur technique, puisqu'ils ont de l'expérience internationale maintenant. Mais l'offre de SFR permettait, lorsque nous faisons la balance entre l'argent qui va sortir, les subventions que nous allons leur donner pendant 25 ans, et la recette que la CTM aura pendant 25 ans, mais c'était largement positif
en faveur de
la CTM, plus que le second. D'accord. Il y avait un troisième candidat, au contraire, il demandait plus d'argent qu'il ne donnait sur 25 ans.
D'accord, et celui-là, c'était pas France Télécom, je crois ?
Non, c'est un groupe que j'ai un petit trou de mémoire. D'accord. Non. Orange était sorti deuxième. Hein.
Très bien, oui.
Il y a un troisième, là, qui n'avait pas bien compris le truc, parce qu'en 25 ans, il demandait plus d'argent que ce qu'il donnait.
D'accord.
J'ai présenté ces résultats-là, pour plus de transparence, lors de la plénière de juillet, le 27 juillet, et la plénière a approuvé le choix de la commission et le choix du président, parce qu'en fait, c'est le président du conseil exécutif qui choisit en dernière instance.
D'accord. Et c'est ce qu'il est allé signer la semaine dernière,
voilà,
à Paris.
Alors, une fois que la plénière avait validé son choix, il, à l'occasion de passage à Paris, a été organisé chez l'AMO, celui qui fait l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et son nom m'échappe, hein, ça, j'ai un petit trou de mémoire sur son nom, mais ça n'a pas d'importance, c'est un bureau conseil international qui est basé à Paris. Et bien, dans leurs locaux, le président Marie-Jeanne a signé avec le directeur général de SFR cette délégation de service public.
D'accord.
Qui est maintenant signée, notifiée, et qui va pouvoir entrer en activité.
D'accord. Donc, si je résume, Daniel Marie-Sainte, on a repris tout l'historique, on a expliqué comment c'était quoi cette histoire d'Internet. Ensuite, comment on est arrivé à un dédoublement des câbles. Comment après, on a dû construire un nouveau réseau sur la Martinique. C'est un réseau souterrain. Et puis après, les trois piliers dont vous avez parlé tout à l'heure, qui étaient la construction faisant monter le très haut débit.
La montée en débit. C'est ce qui est déjà en cours. Dans des sites stratégiques, vers des utilisateurs stratégiques.
Ensuite, deuxième chose, c'est
la réalisation du réseau FTTH, c'est-à-dire le déploiement de la fibre optique.
Oui.
Hein, jusqu'à chaque maison,
jusqu'à chaque bureau, quoi. Chaque maison,
voilà.
Chaque bureau.
Bien. Mais je vais porter une précision pour qu'il n'y ait pas de confusion. Lorsque, une fois le réseau construit, un citoyen martiniquais voudra faire arriver la fibre optique dans son domicile, dans sa maison, ce que j'ai dit qu'on arrête à la limite de sa propriété, dans sa rue, il va devoir, comme il faisait pour le téléphone, aller voir un opérateur pour lui demander un abonnement.
Très bien.
Et cet opérateur va, à partir du NRO à ce moment, c'est-à-dire le nœud de réseau optique, tirer une fibre optique, comme on tirait un câble de téléphone, qui peut être aérien ou qui peut être souterrain, arriver jusqu'à une prise à l'intérieur du domicile, et dans cette prise, les gens vont venir brancher leur ordinateur, etc.
Alors,
donc chaque personne va devoir faire une démarche auprès d'un opérateur.
D'accord.
Qu'il aura choisi.
Et puis, troisième chose, c'est celui qui commercialise en votre nom ce réseau, qui lui va donc vendre à la découpe aux uns et aux autres.
Là, il va vendre aux opérateurs et qui eux-mêmes vont, les opérateurs vont vendre l'abonnement à leur client final.
Bon, alors, Daniel Marie-Sainte, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, par rapport à tout ça, que nous sommes au point à la Martinique sur cette question du haut débit ? Je sais qu'il y avait un sujet qui vous avait préoccupé à l'époque, vous en aviez parlé, c'était notamment de réfléchir que le réseau martiniquais, surtout par rapport aux difficultés que nous avons de cyclone et autres et compagnie, tourne aussi comme une espèce d'intranet. C'est-à-dire que si nous avons les connexions qui sont coupées du reste du monde, mais que le réseau local martiniquais continue de tourner. Est-ce que ça a été validé jusqu'au bout ou pas ?
Oui, alors là, c'est un autre aspect. C'est la géométrie même, géographie du réseau. Il faut que les Martiniquais savent, jusqu'à présent, et c'est pourquoi ça coûte un peu cher, que quand ils sont chez deux opérateurs différents, quand ils envoient leur SMS ou un message à leur correspondant, s'ils ne sont pas chez le même opérateur, le message va traverser l'Atlantique dans un sens, et puis ensuite va revenir. Parce que il n'y a pas une boucle locale, comme on dit.
Oui, oui, sans compter qu'il peut faire le tour du monde.
Quoi. Bah, voilà. Alors, l'idée pour nous, en tout cas déjà, nous travaillons déjà pour la CTM elle-même, de mettre une boucle locale, et ensuite à terme pour tous les Martiniquais, pour que lorsque le Martiniquais envoie un email ou un SMS à un autre Martiniquais, que ça n'a pas besoin de quitter le territoire, et ça va faire diminuer le coût.
D'accord.
Donc diminuer ça, le coût de la communication.
Ça veut dire que l'année maritime, vous avez cette ambition, mais que pour l'instant, cette partie-là n'est pas faite. C'est bien ce que vous nous dites, quoi.
Ah oui, en tout cas, il faut que le réseau se fasse, et puis il faut ensuite, derrière, qu'il y ait les opérateurs qui mettent les... Alors, c'est pourquoi c'est important. On a parlé beaucoup de fibre optique, mais il y a une série, donc, disons, d'équipements techniques de haut débit, de très haut débit, qu'il va falloir aussi installer. Des entreprises vont se développer là-dessus. Donc on aura besoin de techniciens dans ce domaine pour pouvoir non seulement installer tous ces équipements, mais également les maintenir en bon état, c'est-à-dire faire la maintenance derrière. Mais à terme, un, ça permettra à tout le monde d'avoir l'information rapidement et de communiquer, en tout cas en intra, en interne, meilleur marché.
D'accord. Alors, là maintenant, nous en sommes arrivés donc à toute cette présentation. Mais il y a un deuxième aspect qui m'intéresse, et c'est pour ça que je vous ai dit, Daniel Marie-Sainte, que c'est important qu'on prenne le temps aujourd'hui de rentrer dans l'ensemble de ces détails. Parce que dès lors que nous avons le réseau, il y a les opérateurs, les différents opérateurs, mais on se rend bien compte que les entreprises martiniquaises, malgré tous les efforts que vous faites, vous, et qu'elles font, elles, ne sont qu'en marge, disons, grosso modo, de toutes ces affaires-là. Quand je dis en marge, c'est-à-dire que le gros débit de l'argent qu'il y a dans toute cette affaire, parce que je crois qu'il s'agit quand même de presque de 200 et quelques millions qui sont investis, c'est-à-dire pratiquement la moitié du TCSP, ce qui représente quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Les opérateurs martiniquais ne sont toujours pas en première ligne. Et moi, ce qui m'intéresse, au-delà du fait que, bon, je puisse comprendre que sur le réseau, on n'est pas forcément toutes les compétences techniques et tout le reste, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, dès lors que ce réseau-là est construit, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour qu'il y ait un développement des entreprises sur la base de ces réseaux-là. Parce que ça va ouvrir, il faut bien que nos auditeurs arrivent à bien comprendre que ça va changer la donne, que le fait d'avoir le très haut débit à la Martinique va permettre, par exemple, je ne sais pas moi, nous sommes dans votre bureau en ce moment, mais je pourrais mettre une caméra qui sera branchée directement ici sur une prise téléphonique et qui nous permettra d'être en direct de votre bureau. C'est-à-dire que où avant il fallait deux hélicoptères, où il fallait deux ponts, des choses comme ça, on va pouvoir faire ça directement. Donc ça change tout. Et ça change toute l'économie d'échelle de la même manière que ça change le Facebook Live. Alors, est-ce que sur cet aspect des choses, vous avez commencé à réfléchir, ou bien vous vous dites, on met d'abord le réseau en place et puis ensuite on verra?
Bien. Alors, moi, j'ai fait deux choses. D'abord, je diffuse cette information. Je vous remercie de contribuer à la diffusion pour faire prendre conscience à tous.
Notez que c'est nous qui vous avons fait la demande.
Je vous remercie. Je le reconnais volontiers. En tout cas, pour les moyens que j'avais à ma disposition, me permettent déjà de communiquer beaucoup là-dessus. Et ensuite, quels sont les moyens dont je dispose, moi? Je vous ai dit que, bon, évidemment, je suis responsable des infrastructures. Ma première mission, c'était de faire construire le réseau pour qu'il soit disponible. Comme je fais construire des routes, je ne construis pas les voitures, mais une fois que les routes sont là, toutes les voitures peuvent circuler. Donc, on construit le réseau pour ensuite que les données puissent circuler à une vitesse très rapide, sans perdre de temps, pour permettre de développer le télétravail, pour permettre de développer les téléconférences, les visioconférences, pour faire en sorte que deux personnes pour collaborer n'ont pas besoin d'être assis dans la même pièce. Savez-vous que déjà, je prends un exemple, puisqu'on s'est rencontrés dans ces circonstances, lorsqu'il y a des catastrophes, à chaque fois qu'il y a des catastrophes annoncées, des catastrophes naturelles, hein, type cyclone, nous mettons en place une cellule de crise que je dirige, mais avec un certain nombre de collaborateurs, nous n'avons pas besoin tous d'être dans la même salle. Quand vous êtes passé, vous avez vu des cadres, mais nous étions en contact par voie, voilà, avec des techniciens qui étaient tout le territoire, et nous étions régulièrement tenus au courant, y compris avec des vidéos ou des photos de tout ce qui se passait, ce qui me permettait, tous ces éléments-là en main, de prendre des décisions et leur donner des instructions. Et tout cela, on le faisait grâce au réseau Internet. Mais pour aller vite, hein, disons le réseau numérique. Et donc, je collabore jour et nuit, parce que j'ai la chance d'avoir des collaborateurs eux-mêmes passionnés de cela. Donc, ils ont tous leur tablette, leur smartphone, ils me prennent des photos, ils envoient, ils nous décrivent le dégât, etc. En nous regardant dans la base des données, si nous avons déjà des entreprises avec qui nous avons des marchés, nous passons des commandes toujours par email à ces entreprises. Ces entrepreneurs eux-mêmes qui sont vigilants envoient tout de suite leurs équipes. Et dans les 48 heures qui suivaient Maria, nous avions dégagé toutes les routes. Nous n'avons pas eu besoin de faire des réunions, de se voir, d'envoyer des trucs sur papier. Évidemment, après, puisque nous sommes encore dans la société de papier, je régularise tout ça en envoyant un vrai bon de commande et l'entreprise envoie sa vraie facture. Bien que maintenant, il peut même envoyer la facture par le net. Bon, mais quand même, il faut ensuite que je mette sur papier pour signer. Bon, et puis on peut...
Vous êtes sur des bons de commande, donc ça ne cause pas de problème.
Voilà, donc je veux dire que... Déjà, nous utilisons nous-mêmes déjà l'outil. Nous avons un réseau de caméras qui nous permet de surveiller toutes les routes, les montées de rivières, on sait quand c'est inondé. Par exemple, je n'ai pas besoin d'aller à Saint-Pierre pour voir qu'il y avait un trou qui était fait dans une voie. Et rien qu'en regardant mon réseau de voies, je savais tout de suite que ce n'était pas une voie de la CTM, c'était une voie municipale. J'ai pas eu besoin de... J'ai reçu la photo, les photos par mes collaborateurs sur place, immédiatement d'une base de données que j'ai sous l'ordinateur, j'ai pu savoir ce que c'était et j'ai donné des instructions. Bien. Et à chaque fois, c'est comme ça que nous faisons. Je pense qu'il faut que les entreprises martiniquaises, elles mettent, se mettent au numérique. Et ils pourront utiliser ce réseau. Qu'est-ce que nous faisons? Nous formons des jeunes martiniquais, soit à l'extérieur de la Martinique, soit en leur donnant des bourses, soit en les prenant totalement en charge pour aller se former dans les lieux où on fait la formation au débit. Nous avons appris qu'il y avait l'initiative de créer sur place un centre de formation. Eh bien, nous finançons les formations dans les centres qui ont été créés sur place en Martinique pour qu'il y ait un maximum de Martiniquais ou Martiniquaises sachant évoluer dans le haut débit. Parce que comme nous sommes éloignés, les problèmes de maintenance sont importants. Nous pouvons faire venir une multinationale, viens, ils nous construisent un truc, puis quand ils sont repartis, quand c'est en panne, nous sommes embêtés. Nous avons besoin de la maintenance. Ça, c'est la partie hard. La partie soft, comme on disait à l'époque, hardware et software, il faut qu'il y ait des entreprises, alors on dit international, on dit des start-up, qui fabriquent des logiciels, des applications. Et quand ils font fabriquer l'application, ils ont besoin du réseau pour entrer en relation avec leurs clients. Donc, c'est une manière donc, de permettre à ces entreprises start-up dans le numérique de se développer. Vendre les produits, vendre des séjours,
Daniel Marie-Sainte, nous sommes d'accord.
Eh bien, c'est pour cela que nous faisons tout cela.
Oui, mais attendez, nous sommes d'accord.
Mais demandez qu'est-ce que je fais pour les entreprises.
Non.
C'est
non.
Un service aux entreprises.
Oui, Daniel Marie-Sainte, sur ça... Il n'y a pas de discussion possible sur le fait, effectivement, que vous mettez en place ces infrastructures. Moi, ma question aujourd'hui est de savoir qu'une fois que les infrastructures sont là, c'est qu'il faut presque dynamiser le système. Je sais que le président Marie-Jeanne, il dit souvent « Ok pour les investissements, mais je n'aime pas tout ce qui est l'exploitation ». Bon, parce que très souvent, c'est dans l'exploitation que le diable se trouve. Hein. Ouais. C'est là qu'on a les déficits, qu'on a les problèmes, tout ça. Mais il n'empêche que les logiciels dont vous parlez, si aujourd'hui à la Martinique, vous ne lancez pas vous-même une dynamique autour de cette affaire pour créer des services autour de ça, on va voir débarquer encore des multinationales qui vont s'occuper de ça, quoi. Parce que vous prenez l'information que vous nous avez donnée sur la route de Saint-Pierre, en fait, vous disposez d'une base data qui fait qu'à un moment donné, vous avez différentes infos qui sont regroupées et qui font que... Bon, et ces bases data, ça coûte des millions, ça coûte énormément d'argent de faire savoir que, par exemple, dans votre pièce, vous avez 22 dossiers, que le dossier, il est à tel endroit et pas à tel autre, quoi. Donc,
en tout cas, d'abord, il faut savoir qu'avec la loi NOTRe, on a enlevé aux collectivités régionales, à la CTM, donc, ce qu'ils appellent la clause de compétence générale. Mais ça a été transféré à d'autres structures, aux EPCI. Et la CACEM, je la félicite pour ça, avait pris l'initiative de créer une technopole. Nous soutenons une technopole. Ils ont créé une pépinière d'entreprise. Nous soutenons les pépinières d'entreprise. Nous sommes critiques vis-à-vis de la CACEM. Je suis moi-même élu à la communauté de la CACEM, membre de l'opposition. Mais quand une initiative nous est proposée, nous la soutenons. Il y a une pépinière qui doit se faire, qui tarde à sortir de terre, mais qui doit se faire à Choco, choisi. Quand il y a une pépinière à l'état d'abricot, et qui s'est orientée vers ce qu'on appelait à l'époque des nouvelles technologies, d'accord, donc le numérique. Voilà les initiatives que la puissance publique peut prendre, qui est de mettre à la disposition des installations de ceux qui veulent prendre une initiative économique, créer des entreprises dans le domaine. Qu'a fait la CTM ? Nous avons mis dans la liste des projets que nous soutenons financièrement, le numérique en premier. Nous avons eu à créer... à négocier dans le cadre de la gestion des fonds européens des secteurs prioritaires. Mais le numérique vient en tête. Nous venons de faire créer un site de la CTM dédié aux informations sur les fonds européens.
Qui est complètement rénové.
Voilà. Si vous allez là-dessus, vous allez voir que le numérique est en bonne position. Nous venons d'approuver ce qui s'appelle la fiche DOMO, c'est-à-dire le document de mise en œuvre, qui décrit les critères que doit respecter un projet dans le numérique en particulier, mais dans tous les autres secteurs, pour être éligible aux fonds européens et aux fonds de la CTM. Donc c'est des aides financières que nous mettons à la disposition des porteurs de projets. Donc nous n'avons plus le droit de créer nous-mêmes l'entreprise, mais nous accompagnons ceux qui ont pris l'initiative de le créer, ou bien nous accompagnons les communautés d'agglomération, les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, qui prennent des initiatives dans des zones d'activité économique qu'ils ont désormais la compétence à créer. Donc nous les accompagnons. Nous nous occupons donc, en résumé, des infrastructures et de l'aide à la création et développement d'activités. Voilà le credo dans lequel nous passons. Et nous soutenons toutes les initiatives en formant des opérateurs économiques qui pourront être soit ceux qui vont créer leur entreprise ou soit qui vont être salariés auprès de ceux qui créent leur entreprise. Il faut voir dans quel domaine on se situe.
Absolument. Mais enfin, c'est quand même très important aujourd'hui que vous ayez aussi des actions de vulgarisation sur ces questions-là, puisque il faut dire qu'il y a un véritable enjeu qui est en cours sur la question. Vous parliez tout à l'heure du travail à distance, mais je dirais même que ce travail à distance avec le travail à la maison est une véritable révolution industrielle, puisqu'en réalité, aujourd'hui, un collaborateur n'a plus besoin d'être au bureau pour se déplacer, de passer 2 heures dans les embouteillages le matin. Il peut prendre son service à 7h30 de chez lui et retrouver après en réunion. Enfin, je veux dire, c'est carrément une révolution que nous sommes en train de faire sur ce point. Et je crois qu'il est important que vous disiez aussi sur cet aspect des choses quelques mots aux Martiniquais.
Oui, et je le pratique déjà moi-même. C'est le meilleur exemple que je peux donner, c'est le mien, sans être prétentieux. Et je suis sûr que tous mes collaborateurs qui vont écouter ces émissions ne pourront qu'attester. Dès le matin, nous échangeons. Ils n'ont pas besoin de nous voir. Ils font les notes, ils envoient par mail. Ils font les photos, ils envoient par WhatsApp. Nous examinons, nous leur donnons des consignes. Et chacun fait son job. Ensuite, nous avons les comptes rendus régulièrement, etc. Bon, c'est vrai pour le principe. J'ai prévu avec eux une rencontre hebdomadaire. Pour un peu recevoir, parce qu'il faut quand même une certaine convivialité, mais malgré que notre pays est petit, on perd, comme vous avez dit, beaucoup de temps dans les embouteillages. Les temps de déplacement. Et c'est du temps perdu. Du temps perdu, donc, ils peuvent sans se déplacer, puisque les bureaux de mes collaborateurs sont répartis sur tout le territoire. Nous avons des subdivisions territoriales. Et il y a des bureaux à Saint-Pierre, à Basse-Pointe, au Marais, à Rivière-Salée, donc au Lamantin. Donc, on est éclaté. Donc, il faut qu'on ait des moyens de se voir. Mais ça, c'est pour les usages. Sans compter que nous avons notre usage que nous sommes en train de développer. Nous avons déjà des collèges numériques. C'est-à-dire que nous remettons des tablettes à chaque élève. Il peut être en relation avec son prof. Il ne vient pas avec un gros sac rempli de livres sur son dos, mais avec sa tablette. Il est en communication, il reçoit ses devoirs sur sa tablette. Il y a un collège pilote à Ducos, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une publication dans une revue spécialisée de l'Académie. Quoi. Et nous avons cette ambition, de même que nos lycées, parce que je vous ai dit qu'on fait la montée au débit, au campus caribéen des arts, il y a donc des cours déjà sur l'infographie. Hein, donc les artistes, ce n'est plus avec des pinceaux, etc., mais c'est directement sur l'ordinateur qu'ils vont faire des œuvres d'art, etc., etc. Donc on travaille sur ça, et nous formons ces acteurs. Et moi, je crois beaucoup à cela, parce que le pays soit grand ou petit, avec son ordinateur et son intelligence, on produit des choses qu'on peut vendre dans le monde entier.
Absolument. Et puis on est.
Et
puis on est dans un domaine qui est celui de l'infopreneuriat, quoi, en fait.
Voilà.
Hein.
Voilà. Et... Alors je veux convaincre les Martiniquais sur ça. Maintenant, il y a toujours un danger dans la communication. La première partie que j'ai faite là, les gens ne retiennent pas que je leur dis qu'il me faut 4 ans pour que ça se développe. Ils sont persuadés que lorsque nous avons annoncé ça, le lendemain, ils vont sur leur ordinateur et puis ils ont leur haut débit. Et je vois une certaine impatience. Je reçois beaucoup de coups de fil. À chaque communication, après, je reçois soit sur ma page Facebook, ou soit des emails, ou soit des coups de fil pour me dire « Ouais, mais chez moi, le réseau est mort. Comment tu racontes qu'il y aura le haut débit. Bon, chez moi, je suis dans le vide, je suis dans une zone blanche. » Il faut le temps. Malheureusement, il y a la loi capitaliste du marché qui est que les opérateurs développent les réseaux dans les zones où ils ont un retour sur investissement le plus rapide. Quand vous habitez à la campagne loin, la vie est agréable. Le même phénomène est observé en France. Il y a des zones où même le téléphone ne passe pas.
Les zones blanches.
Les zones blanches. Bon, où ça ne passe pas. Et nous, alors nous, comme nous sommes une collectivité publique, nous avons un mot d'ordre. Il faut que tous les Martiniquais soient égaux devant le numérique. Donc, c'est avec des fonds publics que nous allons porter le très haut débit pour les habitats, même isolés. C'est un devoir que nous avons. Mais derrière, il y aura quelqu'un qui va commercialiser. Évidemment, celui qui commercialise, il est plus pressé de commercialiser là où il y a une forte confrontation humaine que de là où on est isolé. Bon, l'EDF a fait la même chose. Hein. Vous avez des maisons isolées où il n'y a pas le réseau qui passe devant la maison, quoi. Eh bien, nous allons veiller, d'ici les 4 ans, que le réseau passe en limite de propriété de chaque Martiniquais. S'il veut se brancher, il va payer un branchement. On lui tire le petit bout de fil optique qui lui permet d'entrer chez lui et qui sera pas trop cher. Nous avions estimé que ça devrait tourner au maximum à 90 euros.
D'accord.
Maintenant, on verra.
90 euros par mois.
Non, c'est pour le raccordement.
Pour le raccordement, d'accord. Et la liaison, grosso
modo. Maintenant, c'est chaque opérateur qui va faire son prix.
D'accord, mais vous avez quand même une idée aujourd'hui.
Non.
On ne vous a pas donné d'indication.
Non, nous n'avons pas d'ailleurs de compétences là-dessus. Simplement, c'est l'ARCEP, l'autorité de régulation, qui va regarder s'il n'y a pas des bruits. Parce qu'il y a un gendarme de l'Internet qui existe déjà, qui regarde un peu ce que font les gens, qui surveille pour les tarifs de téléphone, mais également pour l'Internet. Mais là, le système français et européen a prévu que c'est la concurrence qui va fixer le prix.
D'accord, très bien. Bon, écoutez, Daniel Marissen, je crois qu'on a pris le temps de parler de ce sujet. Il y a encore des choses à dire, bien entendu, sur ce débat. Je vous propose que vous nous donniez les dernières informations que vous estimez utiles. Et puis je vous propose que, de manière assez régulière, si vous en avez le temps, que nous puissions faire des points sur cette question du haut débit, de l'Internet, parce que c'est, à mon avis, l'une des révolutions importantes, d'autant plus que pour notre site ici, martinique.com, la question de l'alternative numérique est essentielle. Alors, donc, je vous laisse le micro pour pouvoir nous dire les derniers mots que vous considérez comme utiles.
Absolument. D'ailleurs, je suis prêt à accueillir de manière positive la proposition que vous m'avez faite, puisque nous pourrons régulièrement tenir vos auditeurs au courant de l'avancement des projets. Puisque je vous ai dit que nous sommes dans la phase de conception et les travaux vont commencer. Donc il y en a qui seront faits en 2017. Je pourrai régulièrement vous faire le point, si vous voulez. Et je veux réparer un trou de mémoire que j'avais, puisque vous m'aviez demandé quelles étaient les entreprises qui avaient concouru pour avoir la délégation de services publics pour la gestion du réseau une fois terminé. Alors j'ai précisé que c'est SFR qui a eu l'affaire Et comme j'ai rendu public déjà ces chiffres, je peux à nouveau vous le dire. Sur les 25 ans, ils ont prévu de verser à la CTM 100 millions et de demander seulement 17 millions de subventions. Donc quand on fait la balance, vous voyez, ça fait 80, la CTM sera gagnant de 91 millions sur les 25 ans. Celui qui venait en deuxième position, c'est le groupe Orange, qui proposait de verser, d'abord de demander à la CTM une subvention sur les 25 ans de 13 100 millions, et il verserait comme redevance 90 millions. Ce qui fait la différence, le bénéfice, si on peut dire, pour la CTM, serait de 80,7 millions. Donc vous voyez, c'est moins,
ça fait une différence.
Une différence moins intéressante que 91 millions. Et puis enfin, il y avait un groupement qui avait pris le nom commercial de Madinina. Bon, vous voyez très bien avec ce nom-là, il y a beaucoup d'entreprises martiniquaises là-dedans. Mais malheureusement, ils envisageaient de verser comme redevance 27 millions sur les 25 ans, 27 millions 6, mais demander des subventions dans la même période de 36 millions 2, ce qui fait ce n'est pas un bénéfice qu'il y a eu pour la CTM,
mais une perte.
Une perte de 3 millions 7, parce que, bon, et c'est ça qui a fait qu'il a été en troisième position, et c'est SFR qui est sorti en 1, donc je donne cette information-là, puisque je l'ai rendue publique devant les études.
D'accord.
Bien, maintenant, j'espère que tout ça va bien fonctionner. Nous avons des techniciens à la CTM.
On est parti pour combien d'années, là ?
4 ans. Quatre ans. Mais ça va se faire par tranche, donc il y aura des communes qui vont voir le bénéfice dès l'an prochain. 4 ans, c'est pour couvrir le territoire.
D'accord. Très bien.
Et on lance des bons de commande par groupe de 5 communes. Et ça doit se... Une fois qu'on a lancé le bon de commande, dans les 4 mois qui suivent, on doit avoir les résultats. Et on va aller progressivement. Maintenant, au fur et à mesure que les entreprises vont monter en puissance et ils vont augmenter leur effectif, parce qu'il est prévu qu'il y ait 180 emplois de créés. Mais il démarre un certain montant et puis ça va monter comme tous les chantiers. Il y aura une montée en puissance. Mais on commence toujours par la phase conception, où ce sont les techniciens supérieurs qui travaillent, et après on rentre dans la phase chantier, où là, on aura des techniciens d'exécution qu'on va voir sur le bord des routes, on va le voir dans les notissements, en train de passer le câble.
Très bien, bien écoutez Daniel Marie Sainte, merci, et comme nous avons pris mot, je dirais que nous nous retrouverons pour parler de toutes ces questions. Merci.
Merci aussi de votre part.